RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec le maître Yodu qui est à mes côtés aujourd'hui. Salut Johan.
Et présent, ça fait, je te vois un peu beaucoup en ce moment.
Bah c'est bien.
Oui c'est bien,
c'est
demain matin j'espère pas te voir.
Alors,
j'espère que tu seras dans le rétro loin derrière.
Un peu de contexte, au moment où on enregistre, on est en plein cœur de Paris, dans la boutique ASICS à Châtelet, c'est magnifique, voilà, on est très bien accueillis.
Comme toujours chez
ASICS. C'est la suite de notre opération autour du Schneider Electric Marathon de Paris, c'est un temps de passage important parce que c'est le moment où notre équipe choisit sa paire de chaussures pour le marathon. C'est pour ça qu'ASICS nous accueille. ASICS, c'est le partenaire principal de cette opération. Donc on est chez toi.
Là, on est à la maison, ouais. Et on a accès à tous les stocks. Donc je peux te dire qu'ils vont repartir. Ça va être Noël avant l'heure.
Exactement. Juste préciser qu'on va profiter de cet épisode pour donner des bons conseils. Le but aujourd'hui, c'est de préciser comment on choisit sa paire de chaussures. Voilà. Quels sont les bons conseils qu'on peut donner si jamais vous êtes dans l'hésitation. Vous ne savez pas quel modèle choisir en fonction de votre objectif, votre foulée, votre gabarit aussi, c'est important d'en parler.
Là, c'est la période. Hein.
Et on a la chance d'être avec un podologue justement qui est avec nous, c'est Yves aujourd'hui. Bonjour Yves.
Salut.
Bienvenue, merci d'être là en tout cas. C'est toi qui accompagne notre équipe, donc c'est toi qui leur as donné énormément de bons conseils. Et toute la team est réunie, toute la team Marathon de Paris. Il y a Arnaud qui est là notamment, qui est arrivé de Rennes. Salut Arnaud.
Salut, ça va?
Ça y est, il est là. En pleine forme, il est fit. Hein,
il a une bonne connexion pour une fois.
La 5G, ça marche à Paris.
La civilisation, c'est sympa.
C'est
ça. Exactement. Alors Yves, on profite de ta présence. On précise d'ailleurs, ça sera retrouvé sur nos réseaux sociaux, mais on a profité de cette matinée. La boutique nous a été ouverte spécialement.
Exactement.
Avant
l'ouverture. J'avais les clés sur moi, j'ai dit rentrez les gars, c'est le moment.
Voilà,
je connais le vigile.
Et l'idée c'est que tu as observé la foulée de chacun pour donner tes conseils et qu'ils puissent choisir la chaussure qui va à leurs pieds. C'est exactement ça, parce que chacun a pu choisir en fonction de sa foulée, de son objectif. Hein.
Alors de sa foulée, de son objectif, mais aussi le choix d'une chaussure running, alors d'une façon générale, pas forcément que en situation à 5 semaines du marathon. Le choix d'une chaussure running, d'un point de vue un peu thérapeutique, parce que ça reste mon job, d'ailleurs d'un point de vue thérapeutique. Un critère qui est très important, ça reste, est-ce que tu as une blessure et où? Ou est-ce que tu as des antécédents, blessure et où? Et c'est aussi ça qu'il faut intégrer dans le choix de sa chaussure running, parce que par rapport justement au site, ce que je vais appeler les points faibles à coureur, c'est-à-dire si ton point faible c'est le genou ou si ton point faible c'est le pied, tu ne vas pas forcément faire les mêmes choix de caractéristiques. Ça, c'est d'une façon générale. Je pense que par rapport aux autres critères que tu as évoqués, disons, je crois que tu as dit la perf, ça, il y a ça qu'il faut vraiment intégrer, parce que tu peux faire... Alors, la chaussure n'est pas un outil thérapeutique, mais par contre, tu peux faire des mauvais choix qui peuvent ne pas aller avec un antécédent de blessure ou des blessures qui sont tout juste... Voilà, donc c'est aussi ça sur quoi il faut avoir un œil.
C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on te consulte, c'est la première chose que tu demandes, les blessures et les antécédents, c'est la base de tout pour choisir une paire de chaussures.
Déjà parce que je suis thérapeute.
Oui, bien sûr.
Les mecs, ils viennent, ils vont très bien, ils viennent te voir quand.
Ah, quand même. Ouais.
C'est vrai que là, moi, je calme tout de suite le jeu. Si tu vas bien, on en parlait tout à l'heure, si tu vas bien à 60 bandes par semaine, ben juste. Ça
change rien.
Et puis juste, ça change rien, etc. Donc, moi, ceux qui viennent forcément consulter, ils ont un problème. Et c'est vrai que le premier truc que je fais, c'est savoir, ok, il est où son problème. Et est-ce que, avant même de parler de mon intervention qui. D'une éventuelle semelle, je dois m'assurer qu'il n'a pas fait d'erreur avant. Et l'erreur, justement, ce serait une chaussure qui ne correspond pas. Et je vais, par exemple, tout de suite te dire, voilà, tu as un problème de genou, une chaussure avec un gros drop, ce n'est pas une bonne idée. C'est déjà, on pose des bases. Tu as un problème de tendon d'Achille et tu viens de t'acheter une chaussure et tu as diminué le drop de 8 mm. C'était pas une bonne idée. Bon, ouais. Alors ça, c'est des exemples un peu extrêmes, mais que tu retrouves fréquemment parce qu'en fait, les gens ne sont pas forcément forts.
Ah, évidemment.
Ils font des choix
esthétiques,
etc. Ou parfois pas toujours bien conseillés parce que le pote d'entraînement, il a fait ça, il a gagné 3 secondes, donc tu fais la même chose et ton tendon d'Achille qui couine un petit peu, bah, il couine un peu plus, etc. Donc on est déjà sur cette base-là. Moi, en tant que thérapeute, c'est vraiment le premier truc que je regarde.
Johan, toi qui es athlète de haut niveau, tu connais ton corps par cœur. Est-ce que tu as des semelles déjà pour courir dans tes chaussures et est-ce que tu es très attentif à ça dans les changements de modèle, même si tu as la même marque depuis des années, donc on l'a dit, c'est ASICS. Est-ce que tu es attentif au drop, à toutes les données spécifiques des chaussures quand tu les choisis?
Exactement, ouais. C'est-à-dire que, et même suivant les modèles, c'est-à-dire que des fois, une chaussure, même un modèle classique, un modèle phare, ça fait 20 ans qu'il est sur le marché, des fois, les techniciens, ils veulent révolutionner le truc et ils te changent la chaussure, ils te changent le drop, et donc il faut être hyper attentif. Et moi, je sais que je regarde toujours. la fiche technique de la chaussure. Le poids, des fois, elle perd 20 grammes, elle s'allège au maximum. Le drop, il est baissé de 8 à 5. Et, si t'es, et pourtant, c'est le même nombre de chaussures. Donc ça, il faut être vachement vigilant. Et ouais, moi, je regarde. J'ai été quand même bien sensibilisé au fait que la chaussure, c'est hyper important et tu la choisis pas uniquement pour, comme il l'a dit, pour l'esthétique ou le coloris ou le côté bump de la chaussure. Elle doit nous correspondre. Et ouais, moi, je suis vachement attentif à ça. Et c'est vrai que, je peux te citer quasiment, pas au gramme près, mais à une fourchette de 5 grammes, 10 grammes, le poids de tous mes modèles que j'ai chez ASICS. Tu vois, après, ça évolue, je te dis, en fonction des années et des modèles qui sortent. Mais ouais, je m'y connais. C'est mon métier, c'est mon outil de travail, la chaussure. Ouais. Donc, je suis obligé de les connaître par cœur. Ouais.
Le poids de la chaussure, c'est essentiel ?
Alors, c'est essentiel. Le poids de la chaussure aujourd'hui, c'est intéressant ce qu'il évoque, parce que, et c'est normal que dans sa position, il connaisse ça, parce que, en fait, en gros, c'est le seul truc qui est à peu près unanime dans la littérature scientifique sur la course à pied, c'est que le poids de la chaussure, c'est le seul critère de performance. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de choses qui sont étudiées dans la littérature scientifique sur la pluricadence de running, t'as la technique de foulée, t'as le drop, t'as machin. Le seul truc unanime, c'est plus t'es léger, plus tu votes. Donc, c'est normal que Johan, justement, il ait cette connaissance-là. Moi, j'allais dire, c'est pas forcément la connaissance que j'ai. Moi, ma connaissance en tant que thérapeute, je connais tous les drops des chaussures. Que je sais l'influence que ça va. Alors, au drop, on va y associer ce qu'on appelle l'indice minimaliste, okay, qui est une somme d'autres caractéristiques qui a son influence. Mais généralement, j'ai quand même tendance à penser que le drop, c'est le truc qui domine un petit peu. Mais que celui qui doit performer connaisse le poids, c'est complètement cohérent parce que c'est juste le seul critère de perf.
Avant d'entrer dans le concret et de parler des cas d'Arnaud, de Lucie, de Mariette, d'Hélène et de Mathieu qui sont avec nous, souvent, Johan est un athlète pro, donc il a la même marque pour toutes les chaussures. Souvent, en revanche, quand on est coureur régulier, oui, on a des chaussures de différentes marques. Est-ce que c'est un problème ? À quoi il faut être vigilant au-delà du poids du drop ? Parce que les chaussures, les semelles, les mousses sont complètement différentes d'une marque à l'autre. Donc comment tu choisis par rapport à ça ? Et je pense même à certaines marques qui font leur pub sur de l'indice minimaliste et aussi du drop zéro, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut l'intégrer dans une gamme de chaussures qu'on utilise ?
Alors, c'est toujours pareil. Moi, je vais me placer d'un point de vue thérapeutique. Et en fait, à partir du moment où tu te places d'un point de vue thérapeutique, les choses sont beaucoup plus simples. Parce qu'en fait, en gros, à partir de... Si tu veux, le rôle du bodog, c'est quoi ? C'est t'analyses une foulée, on parlait de ça. Donc, l'analyse de foulée, elle se fait forcément avec un équipement. Et à partir de cette analyse de foulée et une éventuelle pathologie, s'il y a pathologie, ça veut dire qu'il y a surcharge. C'est-à-dire que, pour faire très simple, on va simplifier, t'as mal au genou, c'est-à-dire que ton genou est en situation de surcharge, t'as mal au tendon d'Achille, c'est-à-dire qu'il est en situation de surcharge. Donc, moi, à ce moment-là, mon objectif, c'est quoi ? C'est, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il y ait moins de charge à cet endroit-là ? Et éventuellement, pas trop les transférer ailleurs, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Donc, à partir de là, quand t'es sous cet axe-là, c'est très facile. C'est très facile, comme je l'ai évoqué, t'as des sérieux problèmes de genou et t'es limité dans ta pratique au niveau du running, etc., etc., et t'es bloqué. Tu peux plus courir plus de 20 minutes, plus de 30, etc. Ouais. Là, tu peux te permettre un changement drastique. Tu vois, notamment passer d'un drop de 10 à un drop de 4, tu peux le faire. Parce que justement, tu sais que ça va alléger les contraintes au niveau de ton genou. Donc, c'est presque une intervention thérapeutique. Je précise que c'est une intervention thérapeutique avec un gros changement, donc à laquelle tu dois prendre le temps de t'habituer. Mais c'est là que c'est aussi le quand tu prends en charge un sportif blessé qui est limité à 20 minutes, c'est que de toute façon, il est limité à 20 minutes. Et qu'il n'a pas des grosses ambitions. Il ne va pas prendre sa chaussure à 4 mm et aller courir une heure.
Ouais, il y en a. Ouais, ça, c'est sûr.
C'est pour ça qu'il faut les quadriller.
Le coureur, ah ouais.
Ah oui,
c'est le coureur. Hein.
Il faut lui parler d'un autre thème qui est très important. C'est que là, on va parler de plein de caractéristiques, etc., etc. En fait, tu peux tout faire si tu prends le temps de t'adapter. C'est là le truc qui s'appelle aussi la gestion de la charge. Le load management aujourd'hui, c'est un truc qui est très défini dans la littérature scientifique. Tu as des cases, okay, tu as des stats qui te disent. Tu dépasses telle augmentation, tu fais x2, x3, x4 ton pourcentage de chance de te blesser. Ça ne veut pas dire que tu vas te blesser.
C'est un vecteur de blessure la chaussure, on peut le dire comme ça.
C'est pas ça. Non, ce n'est pas un facteur de blessure, c'est un facteur de changement.
C'est le changement qui provoque la blessure.
Parce que faut vraiment intégrer. Et Yohan n'hésite pas à m'ajuster aussi. Voilà, c'est qu'à un moment donné, on est capable, nos structures du corps humain, nos tendons, nos articulations, etc., d'encaisser une certaine charge de contrainte, qui n'est pas la même qu'il y a 6 mois, qui n'est pas la même que dans 6 mois en fonction de ton entraînement. Mais à un moment donné, on a une espèce de spectre d'acceptation de contrainte qui a une valeur. Okay, et que si tu veux faire varier et que tu augmentais ta capacité à recevoir des contraintes, c'est-à-dire à pouvoir plus charger, être performant, aller plus vite, aller plus longtemps, etc. Il faut que tu sois progressif. Enfin, s'il y a un message à passer, je sais que vous l'avez déjà passé, etc., c'est que sur la gestion de la charge d'entraînement, c'est vraiment l'aspect progressif des choses, okay, qui prime surtout. Si tu fais ça, déjà, ça veut dire que tu balayes toutes les autres, tous les autres risques qu'il peut y avoir dans le running. Si tu gères bien ta dose d'entraînement, tu peux balayer beaucoup de choses.
Avant d'entrer dans le concret avec Arnaud, avec les autres aussi, les critères que je dois avoir en tête quand je vais choisir ma paire de running, je dois connaître le drop qui me va bien, je dois connaître quoi exactement?
Moi, déjà, le premier truc, c'est que c'est quelque chose qui s'essaye vraiment, parce qu'il y a une notion...
Ce qui est délicat, parce que souvent, tu vas en boutique, tu fais 100 mètres, et puis tu te dis, bah vas-y, c'est la bonne paire de chaussures.
Bah, c'est déjà mieux que l'acheter sur Internet.
Ouais, mais t'as raison.
C'est la recommandation absolue, ne pas acheter sur Internet.
Ouais.
Alors, aller en boutique, trouver son choix, prendre le temps. Même si tu connais tes critères, même si tu connais tes critères, tu n'achètes pas sur Internet. Si tu connais le drop qui te va bien...
Tu peux avoir visité le tas de pointures, parce que bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais... Tu peux avoir des petites variations de pointure.
Moi, je pense que tu vas l'essayer, tu prends le temps et tu t'essayes en boutique de passer 5 à 10 minutes vraiment à trottiner avec. Si tu peux faire un quart d'heure, c'est cool, etc. En général, maintenant, les boutiques prennent le temps justement de l'essayage. Et pour moi, le confort, alors c'est pas que pour moi, il y a des articles scientifiques qui ont montré qu'un coureur confort, il se blesse moins.
Ah, c'est intéressant. Ouais,
ça a été remis en question. Enfin, c'est le principe de la littérature scientifique. Tu as une étude qui pousse l'autre, etc. Mais le confort, ça reste quand même un point. Je dois donner aussi un autre petit tip, achète plutôt tes chaussures en fin de journée.
En fin de journée, ton pied est un peu plus gonflé, il a un volume un peu plus
important. C'est intéressant. Ouais,
il est un peu plus fatigué par la journée.
Ouais. Fatigué, il est un peu plus affaissé, etc. Donc, la dimension de ton pied pour répondre à ce qu'elle va être au 20e kilomètre,
elle est plus proche de ce qui se passe en fin de journée que le matin au réveil.
On aurait dû le faire à 22h, le podcast.
Voilà. Pour choisir ta paire de chaussures, fais plutôt fin de journée. Essaye d'avoir une activité de marche avant. Il faut que ton pied soit un peu vascularisé, c'est là qui va être le plus proche de ce qui va se passer.
On vous l'avait dit.
Le confort, c'est, tu sais, dans l'entraînement, il y a 75% qui est fait en endurance fondamentale et tu dois avoir une chaussure confortable et stable pour faire ces 75%-là.
Dans un instant, on parle de ta rotation de chaussures à toi parce que ça va être important de parler de tout ça. Arnaud est donc avec nous. Arnaud, on est ravis de t'accueillir enfin avec du réseau. On te voit en physique. Enfin, ça ne s'accade pas. Quel bonheur. Arnaud, tu as fait le test avec Yves. Qu'est-ce que tu en as conclu, Yves, alors? Qu'est-ce qu'il a comme foulée? Quel conseil tu lui as donné?
Déjà, avant même de toucher, le regarder, etc. À partir de cette donnée, il va bien. Ça veut forcément dire, si tu veux, qu'on va reprendre un principe que Johan a évoqué. Si tu vas bien, tu ne changes rien. Ouais, c'est déjà, ou en tout cas, pas grand-chose. Okay, donc, rien que, si tu veux, toute intervention thérapeutique ou à titre de conseil démarre par ce qu'on appelle un interrogatoire. C'est un examen clinique d'un professionnel de santé. Cet interrogatoire, moi, il me dit, je fais 60 bandes semaine, je vais bien. Il m'a dit, bon, j'ai les mollets un peu chargés, etc. Et on va revenir sur sa foulée ensuite, etc. Mais grosso modo, il va bien, il encaisse bien la charge d'entraînement, etc. Ma recommandation par rapport à ses chaussures et même par rapport à sa vie tout court, c'est...
Je veux rien.
Parce que ça veut dire que justement, on revient sur cette idée d'adaptation à des contraintes. Il va bien, ça veut dire qu'il est adapté à ce qu'il fait. Donc, c'est là de son programme d'entraînement, etc. Donc déjà, avant même de le regarder, ça, vraiment le conseil, c'est la chaussure que tu vas choisir à 5 semaines du marathon, pour en parler. La chaussure que tu vas choisir à ce moment-là doit être le plus proche de ce que tu es en train de courir, voire pourquoi pas la même.
Arnaud, tu as eu la Nova Blast, hein, Nova Blast 4 pour l'entraînement. Est-ce que c'est la chaussure que tu utilises sur toutes tes sorties d'entraînement?
Toutes mes sorties.
Ok.
Ouais, aujourd'hui, c'est la chaussure, depuis que je les ai eues, je les ai prises. Même aux Philippines, j'avais embarqué mes Nova Blast. Donc,
Et tu penses faire le marathon avec? Tu vas aller au bout avec Nova Blast ou tu vas changer de modèle?
La réflexion justement qu'on a eue tout à l'heure, c'est de se dire, est-ce que je pars avec le Nova Blast ou les Super Blast pour gagner donc en poids de chaussure, donc potentiellement en temps. J'ai cru comprendre que le poids, c'était le nerf de la guerre.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est là, il est dans une situation où il va bien.
Ouais.
Okay. Le seul truc qu'il cherche à avoir, là, c'est
le gain de temps. Bah, bien sûr.
Dans le choix, si tu veux, on va dire minimum de ce qui peut être intégré, c'est de garder toutes les caractéristiques qu'il a de... Et éventuellement, de faire évoluer plat, de poids. Pardon.
Tu lui conseilles les Super Blast parce qu'elles sont proches en termes de caractéristiques des Nova Blast.
Moi, je conseille des caractéristiques. Et effectivement, le modèle duquel il est plus léger,
c'est le seul. Fait 8 grammes de moins.
Par rapport à l'autre, donc ça paraît pertinent. Après, s'il reste sur le même modèle, voilà, parce que je pars du principe aussi que, tu sais, on cherche la performance, hein, pour sa pied, tout le monde part de
performance. Ouais, bien sûr.
La performance, ça vient aussi dans l'idée, et je pense que Yvan, il va confirmer, si je me blesse pas, de plus en plus, je suis plus en plus performant.
Ah oui,
c'est sûr qu'il y a la performance. C'est sûr, tu blesses,
plus tu peux faire ton entraînement optimal, plus tu vas être performant.
Et puis il y a une notion de plaisir aussi. Enfin, aujourd'hui, je prends du plaisir à courir avec mes Nova Blast. Enfin, moi, je place ça peut-être au-dessus de la performance parce que je ne suis pas un athlète de haut niveau. Et aujourd'hui, je prends du plaisir avec la Nova Blast. Donc je pense que la Super Blast, je vais l'essayer pour voir si le plaisir il est ISO.
Ouais.
Et à ce moment-là, bah, j'ajusterai.
Mais tu vois, ça, c'est intéressant parce que si jamais c'est le modèle que tu choisis, tu repartiras avec et tu l'auras à 5 semaines du marathon. En revanche, le conseil qu'on peut donner, peut-être que Johan, tu peux donner ton avis, c'est continuer tout ce qui est footing, endurance fondamentale et tout en Nova Blast et ne sortir les Super Blast si jamais on a l'envie de faire le marathon avec, si... que sur les sorties longues.
Exactement, il va falloir qu'ils les testent, qu'ils se sentent bien dedans, parce que voilà, après, ça, elles se ressemblent, elles font à peine 10 grammes de moins, elles sont le stack est un peu plus important, et la mousse est un peu différente, il y a encore plus de rebond avec la Super Blast, du coup, il va peut-être avoir une foulée un petit peu différente par rapport au retour d'énergie de la chaussure. Mais effectivement, le conseil, c'est de rester sur la Nova Blast pour 80% de ses entraînements. Et sur les sorties marathon, bah, tester avec la Super Blast pour qu'il l'ait bien en main, qu'il la jauge bien pour le jour J. Ouais.
Toi, Johan, une petite question. Si entre une Nova Blast et une Super Blast avec la différence de poids, toi qui es un athlète de haut niveau, comment est-ce que tu pourrais quantifier une différence de temps à forme égale?
Moi, je ne fais pas le même travail avec ma Nova Blast qu'avec ma Super Blast. Nova Blast, je vais les utiliser pour mes footings en endurance fondamentale jusqu'à 15 km/h. Okay. Je ne fais jamais de fractionné de tempo avec parce que je trouve qu'elles ne renvoient pas suffisamment et qu'elles sont assez lourdes. Tu vois, 250, c'est quand même assez lourd. Et par contre, tout le travail de seuil, de tempo où je commence à mettre de l'allure, là je bascule sur de la Super Blast et je mens pas quand je dis ça, on peut aller sur les réseaux sur Strava, j'avais fait une publi justement, je le montre parce que j'adore la Super Blast et je trouve qu'elle a cette qualité de renvoi et de rebond qui est très bon pour justement faire un travail comme ça, moi, de tempo, c'est pas mes allures marathon parce qu'après moi allure marathon je bascule sur la Metaspeed et là on est sur un autre produit avec plaque de carbone, mais par contre la mousse de la Super Blast et le fait d'avoir 10 grammes de moins, malgré tout je sens que je suis à l'aise pour courir beaucoup plus vite. Ça te permet vraiment d'avoir une sensation de courir plus vite, de moins avoir une chaussure lourde au pied.
Merci Arnaud d'être venu.
Merci.
Écoute, vous verrez le test d'Arnaud sur nos réseaux sociaux. Arnaud, on espère que l'entraînement va encore bien se passer. Surtout, bon semi demain.
Ouais,
parce que on enregistre le semi, c'est demain. Donc j'espère que tu vas tout casser.
Il n'y a pas de raison.
Tu pourras nous faire un bon chrono. On va accueillir une des premières filles, peut-être Lucie, qui va se présenter pour succéder à Arnaud. Ça aussi, c'est intéressant. Le gain de temps dont a parlé Arnaud il y a quelques secondes. comment ça se passe? Comment ça se traduit? Pourquoi une chaussure compète est privilégiée? Est-ce que c'est de la réduction de fatigue musculaire? C'est souvent ce qu'on voit, ou est-ce que c'est du rebond pur et dur au-delà du poids, hein, parce qu'on a parlé du poids déjà, c'est la façon dont la chaussure va te renvoyer vers l'avant et comme ça te permettre d'aller gagner plus de vitesse.
Et aujourd'hui, ce qui est validé par la science, c'est le poids.
C'est le poids.
Vraiment le poids.
Ça n'existe pas dans la science. La qualité de la mousse n'existe pas dans la science. C'est vraiment le poids. Si tu veux, t'es quand même sur le segment complètement distal. Là, t'imagines, tu portes un boulet qui est ton pied, que t'envoies, etc. Il est plus léger. C'est le seul, honnêtement, seul truc, etc. Je pourrais pas te parler de Bourbon, je pourrais pas te parler de l'impact. C'est très peu défini dans la littérature.
Et accueillons notre poids plume de la bande. Du coup, Lucie qui est là. Lucie, on est ravis de te retrouver aussi. Lucie qui, on le rappelle, va effectuer son premier marathon donc au mois d'avril. La prépa se passe bien pour le moment. Les kilomètres augmentent.
Elle tremble même pas pour le moment.
Et pas de blessure pour l'instant. Pareil, entraînement Nova Blast depuis quelques jours et tout se passe bien, Lucie.
Ouais, tout se passe bien, pas de blessure, ça tire un petit peu la dernière ischio, mais bon, a priori, c'est pas inquiétant, donc ouais, ça va.
Quel conseil tu lui as donné à Lucie, Yves, alors?
Alors, moi, au fait, je encore une fois, je vais être assez répétitif, elle va bien, et il faut vraiment comprendre que même si je me répète, etc.
Tu les entraînes bien, Yodu, ils vont bien, tous et tout,
ils sont
incroyable.
Pas blessés.
Pour le coup, t'as complètement raison. Et vraiment, moi, je vois des cabinet, je vois des sportifs blessés juste parce qu'en fait la charge d'entraînement.
Ah oui, évidemment.
Et que le coach il s'est enflammé sur un truc.
Évidemment.
Tu reçois des coureurs fatigués.
Cernés, alors que là ils ont bonne mine.
Ouais,
franchement,
ça va,
Flo.
C'est
pour ça qu'en vous écoutant, moi j'aime bien la gradation de plaisir et compagnie, etc.
Ouais.
Parce que je pense que c'est vraiment ça le.
La clé, bien sûr.
Donc, pour en venir à ça, c'est qu'effectivement, moi je place beaucoup de choses sur la charge d'entraînement. À partir du moment où la charge d'entraînement est appropriée et qu'il y a bien-être. Ça veut justement dire que là, dans ce contexte-là, on change pas grand-chose. Et donc, pour notre coureuse, le truc, encore une fois, c'est elle va bien, il y a l'ischio, etc., etc., qui peut s'adapter un petit peu, etc. Mais si elle va bien, encore une fois, elle change pas les caractéristiques de ses chaussures, etc. Elle peut se rapprocher de ce qu'elle utilise. Donc là, elle est sur une variation entre deux modèles. Donc,
Faut peut-être qu'elle choisisse son camp quand même pour la fin de la, pour la fin de la prépa, qu'elle reste soit à drop de 8, soit à drop de 5, mais qu'elle choisisse vraiment son camp. Effectivement, si encore une fois on est dans une optique de se dire, bah, comme je vais bien, etc., le seul truc que je peux envisager de chercher, c'est de me rassurer. Parce qu'en fait, quand on parle performance, on parle aussi de se rassurer et c'est sûr d'être capable. En fait, on ne parle pas performance, on parle économie de course.
Oui, bien sûr. Surtout sur un effort comme sur le marathon. Quoi.
Sur le choix, quand tout va bien, etc., tu peux te permettre de penser à l'économie de course et donc à la légèreté de la chaussure. Donc, en gros, en synthèse, on a convenu. Alors, attention, hein, dans toutes les analyses que j'ai faites, ils ont tous des petites déviations. Il y a un peu. Attention, je vais attendre. Parfois, je peux dire un mot un peu.
Provation, hyperprovation, alors ça tout rien dire. Moi, ce que j'explique dans ces cas-là, c'est que ce sont des caractéristiques. Tant qu'il n'y a pas de blessure, c'est une caractéristique. Okay. Tu fonctionnes comme ça, tu fonctionnes bien, il n'y a pas de blessure. En fait, tu vas commencer à te dire, ça devient important, s'il y a une blessure que tu estimes en rapport avec.
Oui, d'accord. Il va faire un lien logique, pas forcément cause à effet, mais j'active ce levier, je vais diminuer et je vais avoir un bénéfice. C'est ça, en fait, mon choix. C'est de se dire, tiens, quel levier je peux activer, okay, pour avoir un bénéfice sur sa douleur. Donc, chez les gens qui sont sains, encore une fois, et qui vont bien, etc., c'est d'avoir le moins de changements possible. Et de faire des choix qui sont du bien-être, etc. Et éventuellement un peu de légèreté et de la chaussure un peu plus dynamique, parce que c'est quand même un ressenti. C'est pas parce que c'est pas dans la science que c'est. Même un blessure. Toujours tendance à dire, voilà, mais qu'est-ce que se passe avec les mousses, etc., etc. S'il y a un bon ressenti rebond et qu'on se sent plus performant, oui, c'est aussi son ressenti personnel. Ta littérature scientifique, c'est pas ce qui te fait finir un marathon.
Non, c'est sûr.
C'est tes kilomètres, est-ce que tu ressens. Dans ce contexte-là, le moins de changements possible et aller chercher éventuellement un peu déjà.
Qu'est-ce que tu vas faire, Lucie, alors? Tu vas rester sur de la Nova Blast? Tu vas peut-être changer de modèle?
On a dit qu'on changeait de modèle, la Nosatri.
La Nosatri,
ouais.
Qui a une semelle un peu plus rigide, non, Johan?
Plus la ferme, Nosatri.
Ouais. Un peu plus ferme.
Ouais, plus fine.
Puis, c'est vrai qu'il y a la mode du gros stack.
Ouais.
T'en inquiète pas. Courir sur des gros matas, t'en as
quand même. Le gros stack, c'est les grandes semelles. Hein.
C'est ça. Ouais.
Et le drop, on précise pour ceux qui nous écoutent depuis le début, c'est la différence de taille entre l'arrière et l'avant de la
chaussure. Exactement, qui va à peu près de 0 à 12 en fonction des marques, de ce qui constitue en tout cas une option à déclencher ou pas quand c'est pertinent. Et le stack, c'est l'épaisseur globale. Effectivement, ouais, et donc, en nous, elle est un peu moins épaisse en stack. Elle a un drop de 5 mm. Il y en a qui aiment bien être un peu plus proche du sol, etc. Et
tu par rapport à ce qu'elle avait.
Tu tiens compte du gabarit de Lucie ou pas?
Je suis.
Non, ça n'a rien à voir.
C'est un paramètre.
Mais sur les sites de vente, d'ailleurs, tu as les chaussures pour coureurs de plus de 75 kg, de moins de 75 kg.
En fait, après, tu dis une question de durée de vie, mais j'ai envie de dire, ça veut dire que dans ce cas, tu fais 80 kg, tu n'as pas le droit de t'acheter une chaussure perte parce que tu vas l'éclater en 400 bornes, tu vois.
Ouais.
Parce que c'est ça, en fait. Donc aujourd'hui, si tu veux, ce critère-là, il n'existe plus. C'est juste que tu vas corréler, on va dire, le poids de la chaussure, la qualité de la chaussure, à une certaine durée de vie qui peut être différente, t'imagines bien, qu'entre elle et moi, etc.
Ah bah Lucie, elle peut faire 4000 bornes avec ses pompes. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr.
Mais c'est tout. À part la durée de la chaussure, tout le monde a le droit de choisir ce qu'il veut, parce qu'autrement, t'as le droit d'avoir une bombe légère. Si tu veux aller plus vite, c'est le même truc pour tout le monde, quoi, tu vois.
Lucie, t'avais des questions, interrogations par rapport au choix du matériel ou pas vraiment?
Non, pas vraiment.
Tu penses faire ça? Tu penses continuer à utiliser les Nova Blast pour l'entraînement et après les sorties longues, peut-être tester les Nosatri pour voir si ça passe pour le marathon?
Bah ouais, il faut qu'on en discute, mais je pense que je vais les mettre de plus en plus pour m'habituer.
Exactement.
Est-ce qu'il faut alterner les deux, du coup, là, pour commencer, ouais. C'est ce alterner, qu'on disait, ouais.
Bah ouais, exactement.
Parce que j'avais cru comprendre qu'elle était assez exclusivement sur un drop de 5, donc ma recommandation, c'est de rester sur un drop de 5, et c'est pour ça que la Nusa, c'est un peu un badé, etc., etc. S'il y a une variation de drop, ouais, il faut voir un peu dans laquelle elle suit. Moi, je pense qu'à 5 semaines, tu commences à te dire, maintenant, finalement, c'est plutôt à drop de 8 que je suis bien dans sensation et en récup. C'est des récup qu'il faut analyser. C'est souvent ça, et ça, c'est très défini. Comment t'es le lendemain d'une course? Okay, si t'as pas de tension avec une chaussure par rapport à une autre chaussure où t'as des tensions dans le mollet, je rappelle, voilà,
bon, t'as pas de tension. Ouais,
ouais. Donc, je pense qu'il faut vite ce choix-là pour après le rester constant. Moi, une fois que tu sais ce qui est le mieux pour toi, tu le lâches pas jusqu'au
bout. Lucie, merci. Pareil, on verra les images sur nos réseaux. Donc, on te souhaite un bon semi demain aussi. Régale-toi, un bon temps de passage pour le marathon de Paris. On va accueillir Mariette d'ici quelques secondes. Mariette, qui est également une membre de notre équipe. Mariette, profil différent aussi, parce que Mariette s'entraîne, fait un peu plus de kilométrage. Mariette fait des séances en club, donc des séances sur piste. Et on pourra parler de ça aussi avec toi, Yves, et avec toi, Yodu. Ça va, Mariette?
Oui, super.
Bon, Mariette, tu pars sur quel modèle? Alors, vous avez défini quoi après le test de foulée?
Les Super Blast, du coup.
Super Blast. La chaussure un peu plus compète, alors.
Ouais. Bah, elle est comme Mathieu, ils sont dans une case 3h, 3h15,
ouais.
Et avec une logique de performance derrière. Hein, quand tu cours sur ces chronos-là, tu as envie d'avoir une chaussure rapide, quoi.
Alors, elle me dit un peu moins, mais alors, Mariette, non, mais... en fait, Mariette, je pense que ça peut être notre bonne surprise du marathon de Paris. On va pas lui mettre
non,
la pression.
Non, mais elle doute, elle fait semblant.
Elle fait de bonnes séances, elle a fait un super RP au 10K des Champs-Élysées en début d'année. Mariette, pour que tu saches, Yves, elle a gagné son dossard grâce à son frère qui l'a inscrite dans son dos. Elle l'a appris mi-décembre lorsqu'on a fait le premier podcast en public. Et Mariette est en pleine progression. Elle fait partie d'un club d'athlètes à Pantin, d'ailleurs, avec des séances club le mardi.
Tous les mardis.
Et donc, ouais, c'est vrai que c'est pour l'instant un peu difficile de définir un objectif. L'objectif prudent, on s'était dit quoi, Mariette, d'ailleurs ?
Entre 3,45 et 4.
Voilà, donc ça, tranquille. C'est l'objectif de base. Tranquille. Même s'il ne faut pas se mettre plus de pression que ça, parce que ce sera un premier marathon pour toi aussi.
Exactement.
La Super Blast, ouais, c'est un bon modèle, tu penses, pour l'objectif qu'elle se fixe ?
Je crois qu'elle est déjà sur une chaussure qui est... effectivement, on se rapproche fortement de la stratégie matière. Et bien, donc dans ces cas-là, tu as le droit de te dire, bah, qu'est-ce que je peux optimiser pour ma perf ? Parce que tu n'as pas d'autres trucs à penser, tu vois, tu n'as pas des tensions à penser, tu n'as pas des douleurs à penser. Donc, tu peux commencer à dire, bah, tiens, c'est peut-être ça qui va être le plus optimal. Donc, l'idée de se dire, je vais, encore une fois, chercher ce qui se rapproche le plus aujourd'hui de l'outil avec lequel je cours et avec lequel je me sens bien, mais je fais évoluer juste un petit critère qui est la légèreté. Etc. Ouais, c'est
le fait que Mariette fasse des séances de club, c'est peut-être dans la bande celle qui fait le plus de pistes, pistes d'athlée. Est-ce qu'il y a des modèles à éviter sur piste d'athlée ? Est-ce qu'il y a des mousses à éviter ? Comment tu gères ça, toi, Yodu, d'ailleurs, tes séances sur piste ? Est-ce que tu le fais toujours avec les mêmes modèles ?
Bah, les séances sur piste, moi, je fais souvent, généralement, tu vas pour faire des VMA, donc du travail relativement intense. Et là, je mets plutôt des chaussures dynamiques, ouais. Là, je vais chercher plutôt une chaussure assez légère, assez dynamique, qui me renvoie bien, qui
là,
me donne des sensations.
Là, tu te permets de mettre du poids réduit, quoi.
Ah ouais, vraiment, ouais, parce que tu cherches à aller vite, à avoir des sensations, à avoir ce retour d'énergie au sol, ce rebond, cette sensation de course rapide, quoi. Et effectivement, amener une chaussure qui fait 300 grammes sur des 300 mètres et pour aller vite, c'est ultra compliqué quand tu as l'impression d'avoir
un
paquebot au pied. Ouais. C'est ça l'image. Donc, effectivement, moi j'aime bien aller sur des chaussures dynamiques parce que tu sais qu'en plus les volumes des séances sont relativement courts. Les séances de VMA elles font entre 4 à 6 km, tu vois, 7 km maximum. Donc, effectivement, aller sur des chaussures un peu plus dynamiques. Alors, après, la question c'est est-ce que je vais sur la chaussure marathon, tu vois, une chaussure totalement différente, encore plus légère, ça peut arriver. Moi, par exemple, je sais que mes séances encore plus rapides, je les fais avec des chaussures encore plus légères que...
Même en prépa marathon.
Ouais, même en prépa marathon, ça dépend, mais souvent, ça m'arrive de mettre des chaussures, ouais, encore plus des anciennes générations où les mousses étaient avec des stacks moins importants, avec des stacks beaucoup plus fins. Pour avoir justement
ça,
pour faire travailler le pied,
lui.
Ouais, les sandales, ouais. Mais là, c'était ton pied qui travaillait, c'est-à-dire que la mousse elle avait pas ce retour d'énergie, donc c'était à ton pied de plier la chaussure et d'aller chercher ce rebond. Et je trouve que moi, sur les séances de VMA, j'aime bien retrouver ça pour retravailler mon pied.
Voir des méduses, c'est que tu mets
c'est ça, très fine.
Comment il y a une connaissance quand même du port chez l'élite qui est quand même un peu différente que chez récréatifs. Le récréatif, il va choisir, il a son plan d'entraînement, il tape, il va, etc. Il va pas tout de suite sentir s'il est en surdosage.
Bah oui,
il
oui.
se connaît, etc. Donc, justement, quand il va chercher des chances comme ça, il se met un peu... Je suppose que le but, c'est de trouver la juste limite
entre
ce qu'il peut gérer comme contrainte et il connaît la limite où il peut pas aller chercher. Ça, je pense que quand on est effectivement en club, il faut se méfier. Alors, c'est hyper porteur, l'élan du groupe ou les copains d'entraînement, etc.
Tu te fais emmener d'ailleurs, Mariette, sur les séances ?
Bah oui, là, c'est pace.
Un peu, ouais. C'est vrai que parfois, ouais.
Il faut quand même se méfier. Est-ce que c'est complètement compatible avec ce pourquoi je le fais en ce moment.
Ça, c'est intéressant, ouais, parce que dans les clubs, il y a des sous-groupes, hein, évidemment, il y a ceux qui vont très vite, et puis après, voilà, il y a des groupes intermédiaires aussi. Tu es toujours dans le même groupe ou tu changes de groupe parfois pour des séances ?
On se retrouve assez naturellement avec les mêmes groupes, ouais. Il y a des groupes qui se forment assez vite. Moi, parfois, là où je vais trop vite, c'est à l'échauffement, en fait, parce qu'on discute.
Il
n'y
a pas trop d'amplitude
et...
entre ton échauffement en endurance
un peu quand même, mais
fractionné,
assez par rapport aux séances. Ouais. Que le coach nous met, par exemple. Ouais. En fait, on discute et du coup, on prend le rythme de d'échauffement un peu de tout le
des
monde qui est un peu rapide, parfois.
C'est le risque.
C'est pareil, toi, tu as eu les Nova Blast dès le début de la prépa. C'est un modèle que tu apprécies, je crois, d'ailleurs. On
discuté. Très, très confortable, je trouve. On est très bien dedans, quoi. Ouais.
Donc, tu vas le conserver pour toutes tes séances d'entraînement et la Super Blast, tu la testeras pour voir si c'est
vraiment
un modèle.
Je pense que je vais faire
c'est
ça.
C'est le conseil qu'on donne, ouais.
Ouais.
Bon.
À tester.
Ouais. Allez, Mariette, on y croit. Hein.
Mais oui.
Tu sais ce qu'on va faire d'ailleurs?
On va faire des paris.
Alors, on l'a souvent fait, mais on va le refaire cette année. Nous, sur un petit papier, on va marquer le temps qu'on pense que vous allez réaliser sur marathon. Et, là... et comme ça, on vous le montrera après le marathon. Et si vous n'atteignez pas l'objectif, vous rendez le matos. Ouais. Non, merci, Mariette, d'être venue.
On va voir dimanche.
Ouais. Et on va accueillir Mathieu qui va arriver dans un instant. T'as vu, on a fait un peu le spectre par objectif. Il y a plein d'obsessions, de trucs de coureurs, un peu de. Limite du gris-gris, c'est vrai, moi j'y pense.
Ouais.
Notamment le truc de se dire, j'achète ma chaussure de compète, de perf, tu vois, quand on va chercher vraiment un chrono, et je la mets le moins possible avant
pour
l'objectif, pour garder le gain du carbone ou de la mousse ou du truc. Ouais. Ça, c'est un truc de pro, mais malheureusement, vu qu'ils en parlent souvent, ça dilue comme ça pour les coureurs réguliers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on perd de l'efficacité de la chaussure avec l'usure?
C'est difficile d'évaluer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut trouver la juste dose entre à la suite de sa caractéristique de la bombe que j'ai achetée, où je suis quand même bien investi, etc.
Ouais.
Donc, il faut que je mise là-dessus, faut que ce soit performant, et en même temps je suis adapté, et il faut trouver la bonne limite entre parce que si tu découvres le jour J, bah non, ça peut être la super merde, t'es pas adapté au confort, t'es une caractéristique qui a changé, etc. Bah ouais, bah le corps il dit bah je suis pas habitué là, qu'est-ce que tu fais, tu me demandes de faire 42 avec un truc que j'ai pas l'habitude.
Donc tu conseillerais quoi? Tu conseillerais de faire de la sortie longue avec les chaussures de la compète, en fait?
Moi je conseille de bien identifier quelle est la durée de vie de cette chaussure, pour aussi se dire, parce que c'est assez récent, hein, de se dire que le coureur entre guillemets lambda ou récréatif, etc., se dise moi j'ai ma chaussure perf,
c'est à cause d'eux là, c'est à cause d'eux tout ça, c'est bien sûr,
jusqu'à quel point c'est vraiment efficient, et etc. je suis sûr de rien. C'est maintenant vrai, si t'es dans ce contexte là il faut que tu sois habitué, donc oui, à minima les sorties longues, peut-être quelques séances aussi. Puis si tu dis de toute façon, cette durée de vie, elle attend, et que ce sera que pour ce marathon que je vais éclater, bah quoi, à la rigueur, fais en sorte que tu vas prendre le plus possible. Il faut que tu arrives le jour du marathon, si tu arrives à deux tiers cette durée de vie, c'est bon, elle est efficace.
Bon, ça rassure.
Ouf, deux tiers, ça va.
Investi 300 balles.
Ouais.
Bon, notre oiseau de nuit est là. Mathieu. Ça va, Mathieu?
Ah, il a pas dormi encore, mais ça va.
Si, ça va, il a bonne nuit là-haut.
T'es chez moi hier.
Demain, RP au semi, pam.
On va voir.
On croise les doigts.
On espère et on va tout faire pour, en tout cas.
On va tout faire pour. Mathieu, profil particulier. L'objectif de base, c'était 3:30. La prépa se passe extrêmement bien pour le moment. Les chronos sont rassurants. Tu arrives à aller à des vitesses
que
tu n'avais jamais abordées. Il a une montre de running, ce qui n'existait pas avant.
Voilà, il a plus de papier. Voilà.
C'est ça, incroyable.
Il a arrêté les kebabs.
Et
ça, non.
Non, les kebabs et le sucre, on n'y arrivera pas.
Ah oui, il avait du sucre partout dans ses poches ce matin.
Exactement. Donc, on est en train de se poser la question de l'objectif, le faire évoluer. Qu'est-ce que tu as choisi comme chaussure après l'intervention de Yves? Est-ce que tu t'es arrêté sur un modèle, Mathieu?
Alors, je cours avec les Magic Speed 4.
Ouais.
Et on m'a conseillé les Super Blast, c'est ça?
Ouais.
Super Blast, ouais.
Ouais. Et ton cas est intéressant, je le disais, parce qu'on va partir sur un objectif de 3:15-3:20, je pense. Et cette éternelle question qui se pose, Yodu, carbone ou pas carbone?
Oui, non, mais c'est ça, c'est les coureurs entre 3-4 heures.
Le bon modèle intermédiaire.
C'est la problématique de ces coureurs-là entre 3-4 heures, de savoir si on met du carbone ou pas. C'est vrai qu'en dessous de 3 heures, effectivement, l'avantage des chaussures à plaques de carbone, alors suivant les modèles, elles font entre 180 et 220 grammes. Donc effectivement, beaucoup vont là-dessus. Et puis après, bah, y a le côté mental d'avoir une chaussure, le côté un peu placebo d'avoir la chaussure qui court vite. Mais par contre, à 3h30, 3h45, effectivement, la question se pose. Et moi, je trouve que la Super Blast, c'est la même mousse que la Metaspeed. Donc, c'est la Metaspeed de compétition à plaque de carbone, c'est la même mousse, sauf qu'ils ont enlevé la plaque de carbone, qu'ils ont fait un stack un peu plus important, qu'elle est certes alourdie, elle fait 240 grammes, mais il y a quand même ce rebond, ce retour d'énergie qui est intéressant, et je trouve que c'est un bon compromis pour ces coureurs-là, ouais.
Le risque du carbone, est-ce qu'il y a des risques à porter de la chaussure carbone?
Je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le carbone, aujourd'hui, le gain en perf, il n'est pas très bien identifié.
Ah, pourtant, les marques communiquent sur le gain en perf et la réduction de fatigue musculaire. Et ça fait des années que ça...
Je sais pourquoi. Parce que quand même, comme tous les modèles carbone, c'est les plus légers, et que la légèreté, c'est ce qui est identifié, facteur de machin, tu ne peux pas faire la diff. Il y a même des études qui ont montré qu'entre la même paire carbone et la même sans carbone, mais aussi légère, le delta, il était infime. Parce qu'en fait, tu cumules éventuellement deux qualités de chaussures qui vont vers la performance carbone et légèreté.
Là, tu es en train de fracasser une idée reçue, hein, Yves, hein, je te le dis.
Mais ce que je veux dire, c'est que les modèles carbone sont forcément performants puisqu'ils sont légers.
Après, il y a une question, et c'est peut-être sur ça, par rapport au carbone qu'il faut, voilà, c'est que avec le carbone, tu as une petite perte de mobilité du pied. Tu donnes une rigidité à ta chaussure qui est différente parce qu'en carbone. Et c'est là, éventuellement, et mais moi, je me place toujours sur cet aspect thérapeutique. Je suis complètement d'accord avec la recommandation du HAL, sauf que moi, j'ai rajouté, finalement, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller au bout avec l'hématique ? Pourquoi ? Parce que tu as le même drop, c'est OK, etc. Et ce que peut donner, alors tu as quand même une augmentation de stack, je pense, entre les deux, mais ce que peut donner le fait de passer à la Superblast, c'est qu'éventuellement, comme il n'y a pas la plaque carbone dans la Superblast, tu vas être un peu plus mobile. Est-ce que ton pied va s'adapter à ça ?
Mais nous, c'est un conseil que Johan donne quasiment toutes les semaines, c'est garder, éviter de mettre la carbone trop souvent pour garder un pied qui travaille, quoi, un pied intelligent et qui va aller garder de la mobilité, pas toujours mettre le carbone. Toi, tu as de l'expérience en plus, parce que tu as déjà fait du marathon, tu as déjà couru beaucoup de kilomètres.
Bah, en fait, moi, ce que tu dis, en fait, tu vois, par exemple, pour la Magic Speed, je pense que sur mon là, je vise après une heure et demie, autour d'une heure et demie, mais je me vois. Et par contre, dans le marathon, comme tu dis, 3h15, je ne sais pas comment je vais réagir, tu vois, alors que j'avais couru avec les Nimbus, c'est ce que je t'avais dit, Johan, l'année dernière, ouais, les Nimbus 25, j'avais fait le marathon avec. En fait, bon, elles sont un peu plus lourdes, mais au niveau de la semelle, elle est assez épaisse. Donc, c'était mieux, ouais, j'étais bien niveau amorti. En fait, c'est plus ça qui me fait peur. Double temps.
Je pense qu'entre ce que tu décris, c'est-à-dire la Magic Split, la Nimbus et la Super Blast, je pense qu'effectivement, si je devais, je dirais que la Super Blast, c'est peut-être une moyenne.
Entre les deux, ouais.
Un bus, la Magic, tu vois. Est-ce que tu passes ça ? Si tu as cette forme d'habitude-là, sachant que tu es, encore une fois, je casse cette tête là-dessus, mais tu es à drop constant partout, tu es à 8 partout. Pour moi, de toute façon, tu ne prends pas de risque.
Mais toujours le même conseil, en fait. Le mieux, c'est que la Super Blast, il atteste sur une ou deux sorties longues, oui, là, jusqu'à la fin. Ouais. Et puis après, tu prendras la décision après, à son moment.
Ouais. Après, je pense qu'effectivement, il faut aussi faire confiance à sa sensation.
Ouais. C'est ça, ouais.
Et c'est parfois ça, dans un sens comme dans l'autre.
Comment on se sent dans la chaussure, bien sûr.
Au courant, on néglige un peu trop ses sensations. T'es fatigué, bah ça vous t'est. Alléger sa prochaine séance, en fait, c'est pas grave.
Ouais, ça aussi. Une gestion intelligente.
C'est l'avantage qu'on a avec l'opération qu'on a montée, c'est qu'ils ont un coaching personnalisé. Florian, qui s'occupe d'eux, qu'on embrasse d'ailleurs, Flo et Diac, qui est leur coach attitré, qui fait un point rien toutes les semaines, un point hebdo avec eux, et qui s'adapte en fonction de la charge de travail.
Je crois que vous mettez en place des questionnaires, c'est ça, pour obtenir le. Non, il n'y a pas. Evan.
Ouais, il pose la question de plaisir.
Ah oui, ça en début, oui, la graduation. Début, c'est plaisir, tête, fatigue et difficulté de l'entraînement.
Ouais. Exactement.
Ça répond à un truc qui est très cool. C'est ça, même dans les centres de formation des sport co, etc. Qu'est-ce que évalue l'état de forme de la
bah oui,
correspond à des items en fonction de cet état de forme-là. Tu réajustes la charge de la semaine d'après.
Et l'exemple est très bon avec Mathieu qui travaille de nuit à l'hôpital et qui peut adapter en fonction de la difficulté de son travail.
De toute façon, on a deux sorties longues avant le marathon. Moi, je pense que je vais essayer une avec des Magic Speed et des sorties longues. On a un 20 bornes, je crois, ou 22 à faire et puis celle de 30 avec. Et puis après, j'aviserai en fait. Une répétition avant. Et puis,
faut arrêter le coca pour avoir des pieds en bonne santé ou pas ? Ah, ça, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas d'études scientifiques. Pas d'études, ouais. Merci Mathieu, on va accueillir Hélène dans un instant. Hélène qui a un objectif ambitieux aussi à 3h15.
Elle aussi.
Et qui a un peu la même problématique aussi, qui connaît bien le marathon, qui avait fait 3h18 à Barcelone l'année dernière, donc qui veut l'améliorer et faire 3h15. Regarde, ça l'a impressionné.
Il l'a 3h18, regardé. Ouais.
Il a regardé là, ouais.
Ah non, mais on a que des bons, hein.
Ah oui, on a une bonne équipe, hein, ouais. T'inquiète pas. Hélène, on est ravis de te retrouver. Voilà, Hélène, elle débarque de Normandie aussi. Hélène, avec nous, donc ça va Hélène ?
Oui, ça va très bien.
Bon, on est ravis de te voir d'être avec toi aussi en cette veille de semi. Est-ce que le moral va
c'est
mieux
ça. C'est ça la
c'est
question.
C'est la question qu'on se pose.
Doute.
Tu t'es rassuré un peu ou...
Ouais, c'est ça. Puis je sais que je vais être avec Mathieu.
Voilà,
donc, c'est ça. Et je sais qu'il va me booster. Donc,
Tu comptes sur lui alors.
Hein. C'est ça.
Il va avoir une pression.
C'est ça. C'est ça, il
attention
a la pression,
sur le sucre, c'est tout ce qu'on dit. Pas de sucre sur les ravitaux. Après, si tu veux. Mais
il y aura plein de bonbons dans les poches.
C'est ça.
Voilà, mais pas pendant. Je le disais, donc toi, tu as des références aussi de tous les marathoniens qu'on a ou néo-marathoniens. Mmh. C'est toi qui as la plus belle référence avec ce 3-18 à Barcelone. Tu l'avais couru en carbone ou pas d'ailleurs ?
Non, du tout. Ouais. J'ai jamais testé de choses
en
carbone.
Ah, même testé, t'as jamais essayé ?
Jamais. Non, alors, j'en ai jamais mis.
Ça aussi, c'est intéressant. Yves, t'a analysé sa foulée. Quel modèle tu as conseillé pour Hélène ?
Il y a un contexte un peu différent. C'est ça.
Voilà. Ah, t'as des semelles orthopédiques. Ok.
Des semelles qui sont avec un antécédent de pathologie tendineuse du pied et un peu pas osteata, je crois, de mémoire. C'est ça, double douleur de tibia.
Non, du tout, c'est les hanches et en plus valgum.
Voilà, c'est ça. Mais avec, il n'y avait pas de discorde. Voilà. Ok. J'ai confondu avec le pardon. Résultat, ça veut dire qu'il faut comprendre que s'il y a des semelles, ça veut dire qu'il y a quelque part une tentative entre guillemets de modification de sa foulée.
Et si, en général, les gens qui portent des semelles, c'est pour des très bonnes raisons. Okay, c'est-à-dire que normalement, si tu veux, aujourd'hui, quand tu portes tes semelles, c'est que tu as considéré à un moment donné, enfin en tout cas que le podologue t'a vu, que tu as vu que c'était le moyen de te permettre de réaliser ton activité.
D'accord.
Que nous, notre job en tant que podologue, c'est que tu arrives avec... Il y a des gens qui arrivent avec une certaine limite parce qu'ils ont mal. Okay, je me permets de préciser. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Enfin, les mecs arrivent avec une certaine limite parce qu'ils ont mal. Je ne peux plus courir plus de 20 minutes, je ne peux plus courir plus de 45, je suis bloqué à ça. Et moi, mon job, c'est d'essayer de mettre une intervention en place pour faire sauter le verrou et qu'ils puissent réaliser son activité. L'autre, c'est de permettre aux gens de réaliser leur activité. Ce qui sous-entend quand même que, et c'est pas du tout, voilà, c'est que c'est éventuellement quand même des gens qui sont un peu plus fragiles, entre guillemets, ou en tout cas, qui sont plus sensibles au changement.
Donc le choix de chaussures est encore plus prépondérant. Quoi.
Quand quelqu'un porte des semelles, qu'il a eu des antécédents d'éventuellement de douleurs, etc., etc., il faut vraiment là te dire qu'il a trouvé la bonne config chaussures semelles pour rouler et puis avoir de limite et s'éclater, etc.
T'en as des semelles, toi?
Oui, Yvan, j'ai des semelles orthopédiques, ouais.
Ok, parce que pareil, t'as constaté un déséquilibre ou...
Bah, j'avais des problématiques au mollet, ouais. Donc on m'a déchargé un peu...
Tu les mets tout le temps?
Je les mets tout le temps, ouais.
Même à l'entraînement, sur les footings?
Bah, surtout dans les entraînements et dans les footings. Il y a que sur les modèles compétition où je les mets pas.
Ah! Donc sur les courses, t'as jamais
mis? Sur les courses, non. Il y a que en compétition.
Et pourquoi? Pour le poids?
Pour le poids, c'est ouais. Vrai ouais, pour une ouais, question c'est... de poids. Et en plus, tu peux même pas décoller. Pas décoller les semelles de propreté. Donc du coup, j'ai pris l'option de les. Je les ai dans mon quotidien, mais sur les compétitions, je les ai pas. Et donc l'idée, ouais, c'est ça, c'était de me décharger pour mes tendons d'Achille et pour les mollets, ouais.
Et toi, Hélène, pourquoi tu t'en es venue à faire des semelles?
Bah c'est pareil, j'avais des douleurs et en fait, j'avais même les genoux qui se touchaient pendant que
je
courais.
Ah d'accord,
oui. Ouais. Et même au niveau des chevilles, je me suis retrouvée avec des bleus des fois.
Ah ouais, avec
des
les chevilles qui frottaient. Et ça, tu peux le rééquilibrer avec des semelles.
Tu peux rééquilibrer. Il faut vraiment se dire, est-ce que cette intervention, elle est pertinente? Et je reviens sur le même truc, si la personne est sans des limites ou des contrats, oui, là, t'as.
S'il y a des bleus.
Là, ah, effectivement, il y avait.
Oui, si le genou se creuse, vraiment,
au bout d'un moment. Ouais.
On nous décrit souvent comme des personnes, tu rentres dans le cabinet, tu repars avec trois paires de semelles, c'est pas vrai. Aujourd'hui, non, mais voilà, le podo.
C'est vrai qu'il y a eu une période obsession des semelles. Ouais, tout le monde voulait des semelles individuelles.
Je suis contre ça parce que ça nous crédibilise pas. Ce qui nous crédibilise, c'est. Et comme tout, en fait, intervention thérapeutique, tu te fais pas opérer pour rien, tu te fais pas. Ouais, bah, ce qui nous crédibilise, c'est quand tu trouves la juste recommandation, on va dire. J'ai oublié la juste indication. Et l'indication, c'est j'ai une galère ou j'ai une limite. C'est ça, en fait. Et c'est là que tu dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Alors, et effectivement, en modifiant ou en apportant certains points de soutien, parce que l'action de la semelle orthopédique biomécaniquement est encore un peu floue dans la littérature scientifique, mais on sait très bien qu'en apportant certains points de soutien, tu changes un peu le mouvement du pied. Et donc, effectivement, tu vas changer, par un phénomène d'ascension, tu vas changer aussi un peu le phénomène du mouvement du genou. Et donc, effectivement, tu aboutis à un moins de douleur, parce qu'on cherche ça. Nous, on cherche, un peu comme sur le principe de ce que je t'évoquais par rapport au drop de la chaussure, on cherche à opérer un transfert de contrainte. Quand quelqu'un a une douleur, c'est qu'il est trop chargé à un endroit.
Ouais.
On fait le lien avec son défaut morphologique. Une fois qu'on a identifié, tiens, c'est parce qu'elle va trop dans ce sens-là qu'elle charge un peu trop, ou en tout cas, c'est pas parce qu'elle va trop dans ce sens-là qu'elle charge un peu trop, mais si je diminue cette tendance-là, je sais que je vais activer un levier qui va décharger cette zone-là. C'est plus comme ça qu'il faut voir les choses, parce que ce n'est pas forcément la cause, mais ça peut être le levier activé. Et si je diminue cette tendance, on va dire, à l'hyperpronation, ou ce qu'on appelle au valgus tinamique du genou, si j'ai une tendance à le diminuer, eh ben, ça va permettre d'alléger la contrainte sur une molette, etc. Et c'est là que c'est pertinent.
Est-ce que ça s'use des semelles orthopédiques?
Ah oui.
Ouais. Tu les changes tous les quoi?
Moi, tous les 6 mois.
Ah, ça dépend de ta pratique aussi.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'y applique la même durée de vie. C'est pas très loin des matériaux de chaussures, en fait.
Okay.
Ça reste des EBA, des packs, etc. Donc,
un an.
Un an.
Ouais, mais alors, le 1 an, en fait, pour moi... Voilà.
Oui, c'est au nombre de kilomètres en fait, aussi d'utilisation.
Ouais, kilomètres. Moi, je cours 8000 kilomètres, donc ouais. Au bout de 4000, j'échange.
Johan, 2 semaines.
Ouais. Non, mais ouais, 3-4000, ouais.
Passe à la révision chez Midas.
Alors, normalement, si tu veux, c'est presque un peu plus simple que ça. C'est-à-dire que, en gros, il y a un suivi avec ton podologue. Il te voit, je ne sais pas, 2 mois, 6 mois, et il n'est pas vu quand elle est...
Et puis, une question de poids aussi.
Mais le cas concret est excellent, parce qu'on se posait la question du carbone pour Hélène. Est-ce qu'elle pourrait placer une semelle dans une chaussure carbone? C'est possible ou pas?
Bah, ça dépend des modèles, mais...
Ah, donc ça, c'est peut-être un indicateur supplémentaire.
Alors après, peut-être faire une semelle
Tu cours systématiquement avec les semelles tout le temps.
Plus légère.
Chaque footing, chaque séance, chaque...
Après, elle est vraiment adaptée.
Est
elle est très, très fine. Okay. Et pareil, les matériaux utilisés sont vraiment conçus pour...
Mais par contre, on ne met pas sa semelle sur une semelle de propreté. Hein. Ça, c'est... normalement on l'enlève.
La semelle de propreté, c'est la semelle que tu peux enlever.
Ouais, classique de la chaussure. Ouais.
Moi j'ai un patient, il court que, c'est-à-dire qu'il a tous les modèles de toutes les marques, etc. Il vient chez toi en cabinet, il vient, il te met 8 paires carbone. Le budget sort à date d'examen. Ouais.
Bon, merci Hélène. Écoute, on espère que le semi va bien se passer. Il n'y a pas de raison, oui. De toute façon. Et la fin de prépa aussi. D'ailleurs, ce sera très intéressant de parler du dernier blog d'entraînement qui vous attend avec les sorties longues pour tester les chaussures.
C'est le
on
moment.
Va accueillir tiens, Paola, qui est représentante de la marque ASICS, justement, sur ce podcast. Et on a eu la chance d'être accueillis ici dans cette magnifique boutique. Hein, on le précise.
Elle est chouette. Hein.
Ah ouais, ASICS Châtelet, c'est sur 3 étages.
Il y a deux tapis.
Deux tapis.
Pour tester.
Il manque une photo du Johan Durand.
Exactement, je comprends pas.
On va l'installer quelque part.
Que je sois pas quelque part, ouais.
Il n'y a pas de problème.
Mon ego en prend un coup là. Je redescends.
Et Paola est donc avec nous. Salut Paola.
Salut.
Bon, ça va ?
Oui, très bien.
Merci de nous accueillir et d'avoir poussé comme ça les membres de la team à choisir des modèles. On les a évoqués, il y a eu différents choix qui ont été effectués. Là, on vient de parler de deux Super Blast et on en rigolait avec Johan avant le podcast parce que c'est un modèle difficile à trouver. C'est quoi ? Il est victime de ce succès, ce modèle ?
Gros victime de son succès, notamment la Nova Blast aussi. Mais c'est vrai que la Super Blast, là, notamment avec la version 2 du modèle, qui a eu un gros succès et où on essaye de faire du réassort au maximum. Après, là, on le trouve encore facilement en boutique ASICS, mais c'est vrai que chez nos revendeurs, notamment, c'est un peu plus compliqué d'avoir...
Et comment vous l'expliquez ? C'est parce que ça s'adresse à des coureurs réguliers, comme ça, sur des objectifs comme ceux dont on a parlé, entre 3h et 4h ?
Oui, en fait, déjà, c'est un modèle qui va répondre, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, un peu en entre-deux, entre une Nimbus qui est très confortable et une Metaspeed qui va être très dynamique. Et là, on est vraiment sur un produit entre-deux où on axe à la fois sur le confort et sur le dynamisme de la chaussure et qui, du coup, va répondre à beaucoup de profils et permettre d'avoir un intermédiaire et aussi d'avoir une gamme au-dessus de la Nova Blast parce que la Nova Blast avait énormément plu, mais c'est aussi sur de la plus longue distance et pour avoir quelque chose d'encore plus réactif où du coup la Super Blast va pouvoir avoir ce petit plus par rapport à la Nova Blast.
L'autre modèle qui fait un carton, on l'a tous eu d'ailleurs en début de prépa, c'est la Nova Blast, donc on en parlait. Là aussi, il y a beaucoup de demandes parce que c'est vraiment un modèle polyvalent qu'on peut utiliser tout le temps,
ouais.
Sur du footing de récup, sur un peu d'allure, même Johan la met régulièrement. C'est la chaussure par excellence, on a l'impression. On parlait de confort avec Yves tout à l'heure, la Nova Blast, elle convient à tout le monde.
Et en termes de confort, d'amorti, de réactivité sur le produit, avec notamment la Nova Blast 5, où on a vraiment cet effet trampoline sur la chaussure. Pour moi, aujourd'hui, c'est la chaussure la plus polyvalente qu'on va avoir, et surtout qui va être la plus réactive. C'est vrai que quand on a sorti cette gamme un peu plus fast chez ASICS, on n'était pas encore forcément les plus connus sur ce domaine parce qu'on nous connaît sur des produits très confortables. Et là, avec la Nova Blast, déjà avec la 3, la 4, on était très attendus. Mais là, la 5, c'est un succès énorme.
Il y a un détail sur la Nova Blast qui a changé par rapport aux premières années, c'est la stabilité de la chaussure. C'est-à-dire que les nouvelles mousses, quand elles sont arrivées, c'était un peu chewing-gum. Hein. Honnêtement, il y avait ce côté rebond. Mais par contre, ça partait un peu dans tous les sens.
Quoi, dès qu'il pleuvait, dès que tu changeais
Dans les virages, tu courais, tu voyais la chaussure s'écraser. Hein.
Et on a beaucoup parlé de modèle carbone. ASICS est une marque de référence. Hein. On les voit souvent chez les athlètes très haut niveau et qui font des perfs. Hein. Il y a toi en très haut niveau, il y a Félix Bourg, il y a beaucoup de très bons résultats. La spécificité d'ASICS, c'est d'avoir deux modèles carbone, la Metaspeed Sky et la Metaspeed Edge. Et là, Paola, peut-être que le meilleur conseil qu'on peut donner pour ceux qui veulent investir sur ce type de modèle, c'est de venir la tester, parce qu'il y a une vraie différence entre les modèles. Hein.
Oui, en fait, il va y avoir une différence au niveau de l'angle de la plaque carbone et du coup de l'épaisseur de semelle à l'avant du pied avec la plaque. En fait, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on a catégorisé pour un certain profil la Edge et la Sky, on l'a vu sur certains de nos athlètes, on les avait plus profilés sur de la Edge, par exemple, par rapport à leur fréquence de foulée. Et au final, c'est la Sky qui leur correspondait le mieux parce que eux, c'est comme ça qu'ils se sentaient mieux. Donc, c'est vraiment un modèle où ça vaut le coup d'essayer. Après, je suis complètement d'accord avec le fait que les produits, le mieux, c'est de pouvoir les tester. C'est aussi pour ça qu'avec ASICS, on met de plus en plus en place des testings de produits avec des séances, chose qu'on a accentuée avant les Jeux, qu'on continue de faire, notamment avec nos boutiques ou avec nos partenaires, pour justement permettre aux consommateurs de pouvoir tester les produits, parce que ce n'est pas en courant vite fait dans le magasin avec qu'on peut tester le produit, c'est en l'utilisant sur des séances, etc. Et donc, notamment à chaque sortie de produit, on essaye d'accentuer ces testings pour que le consommateur puisse se rendre compte, parce qu'on ne peut pas valider un produit si on ne l'a pas testé en conditions véritablement.
Celui ou celle qui nous écoute, comment tu différencierais la Edge de la Sky, toi, qui connais bien les deux modèles ?
Comme elle l'a dit, c'est vraiment par rapport à tes sensations et ce que t'aimes. Moi, je sais que la Sky, je la trouve un peu molle pour les allures à laquelle je cours et pour les sensations que je recherche. Tu vois, je trouve qu'elle est, elle manque de dynamisme, elle manque de renvoi.
Par contre, pour du tempo, si je devais faire un 100 bornes, c'est sûr, je mettrais la Sky. Mais pour le travail sur 10, semi, voire marathon, pour moi qui cours vite, pour moi qui aime... je suis de l'ancienne génération, donc j'ai connu les chaussures où ça claquait quoi, au sol, chercher le dynamisme et tout ça. Et la Edge se rapproche vachement de ce produit-là.
Ouais. Merci Odu d'avoir été là, en tout cas, magnifique épisode. Un grand merci à Yves qui nous a accompagnés. Beaucoup de conseils donnés, c'était passionnant. Un grand merci à Paola, à travers toi, on remercie toute la marque Asics qui
merci
nous accompagne dans ce
accueil.
Projet. Et voilà, qui nous permet comme ça de faire vivre une expérience incroyable à toutes les personnes qu'on accompagne. Donc merci à vous.
Au plaisir de les voir courir sur le marathon.
Exactement,
de Paris,
on espère que les objectifs seront remplis. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.